Vous êtes sur RTL.
Florent Coury est le premier Français à s'être engagé dans la Légion internationale du président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il publie son récit « Engagé, volontaire chez Flammarion ». Il est notre invité dans Focus Dimanche sur RTL. Bonjour Florent Coury.
Bonjour.
Florent Coury, le 28 février, vous entendez ça. Chaque Européen dans sa capitale peut déjà venir à notre ambassade et offrir son aide. Ce sont les mots de Volodymyr Zelensky. Florent Coury, ces paroles, ça a été un déclic pour vous?
Ça a été un déclic. J'ai considéré que la cause de l'Ukraine était une cause qui était la cause de notre liberté. Et de mon point de vue politique, toute guerre européenne est une guerre civile. Donc j'ai considéré que c'était ma guerre.
Vous partez en Ukraine, vous avez 39 ans, vous êtes père de 3 enfants, vous n'avez aucun motif, on va dire, de partir en Ukraine, hormis le courage ou peut-être l'espoir de défendre notre territoire européen. Vous prenez un énorme risque.
Je savais que je partais dans l'inconnu, n'ayant pas de formation militaire. J'ai considéré que le risque, il était avant tout de ne rien faire. Que vous allez...
Elle vous dit quoi, votre femme?
Elle m'écoute d'abord. Et puis elle était assez héroïque, dans le sens où je pense qu'elle a senti que c'était quelque chose qui s'imposait à moi. Mais ça a été un choc terrible pour ma famille, pour mes amis, et évidemment pour elle qui restait avec nos 3 enfants qui sont relativement jeunes encore, puisqu'ils ont tous moins de 10 ans. Et eux-mêmes avaient besoin d'entendre la vérité de ce qui se passait en Ukraine, notamment mon fils aîné qui avait un ami ukrainien très proche qui était rentré en Ukraine justement en septembre dernier. Et en fait, ça a été avec eux que c'était le plus facile, parce que lorsque vous leur expliquez que vous allez partir pour aider, bah, les enfants qui se cachent dans le métro et dont les parents sont partis, hommes ou femmes, se battent sur le front alors qu'eux-mêmes, ils étaient civils quelques jours avant. Les enfants, ça leur donne du sens.
Et là, vous expliquez qu'il faut s'armer pour partir en Ukraine et qu'on ne trouve pas un gilet pare-balles facilement, qu'on ne va pas à Leroy Merlin ou chez Castorama pour trouver un gilet pare-balles et que ça coûte quand même 4000 euros. Un gilet pare-balles.
Alors, justement, au moment où je prends la décision de partir, je suis devant le consulat d'Ukraine à Bruxelles, parce que c'est là que j'habitais alors, et je rencontre cet ami lituanien, enfin celui qui est devenu mon ami, qui est un volontaire lituanien, et effectivement, on part à Decathlon acheter du matériel divers, parce qu'on se dit qu'il ne faut pas geler sur place, on ne sait pas ce qui va se passer, on pense que la guerre va être courte, mais on est complètement perdu, on n'a pas fait notre service militaire, le gilet pare-balles, on n'en trouve pas, et de toute façon, il faut partir tout de suite. Et les gens qui sont déjà sur place expliquent la désorganisation complète sur place en Ukraine. Et on commence à se rendre compte de la folie de qu'on est en train de faire, puisqu'on ne sait pas ce qui nous attend. La seule chose qui nous pousse, c'est le fait que on veut partager ce destin de gens et de civils qui eux, n'ont pas choisi de devoir se défendre. On découvre peu à peu ce que ça veut dire que préparer un effort de guerre, que s'entraîner. Pour ma part, j'ai quitté rapidement en fait l'idée de m'entraîner, puisque en fait je suis passé sur des missions de recrutement, enfin de gestion de presse, et puis surtout de recrutement où j'étais sur la base arrière à Lviv pour envoyer les volontaires étrangers qu'on sélectionnait pour les envoyer au front. Donc la plupart de mes camarades aujourd'hui sont au front et eux sont restés en Ukraine se battre. Alors pour ma part, lorsque je suis rentré fin avril, j'ai pris la décision d'écrire ce livre et de témoigner pour raconter leur histoire.
Comment on passe de DRH chez Renault à recruter des hommes qui vont devoir se battre dans quelques heures et qui vont se retrouver face à des soldats russes?
Ça n'a absolument rien à voir. Donc en fait, c'est un raccourci facile. D'ailleurs, c'est les journalistes qui m'ont dit la première fois, mais vous avez fait le même métier que chez Renault. Alors je les détrompe pas, parce que c'est...
Ah, moi je ne dis pas que vous faites le même métier. Mais comment on fait?
J'apprécie beaucoup. Au contraire, vous mettez le point. Vous êtes le premier journaliste qui met vraiment le doigt là-dessus, donc ça m'intéresse. Vous avez tout à fait raison. Ça n'a rien à voir en fait. Ça n'a absolument rien à voir. Qu'est-ce qui compte? C'est simplement votre capacité d'adaptation et de résistance à une situation complètement improbable. Dans le privé, il faut bien dire que lorsque vous êtes DRH d'une usine de 3500 personnes, 2000 personnes, après une restructuration, vous avez une responsabilité, vous avez besoin d'avoir cette résistance et cette capacité de gérer l'humain. Lorsque vous voyez arriver des gens qui viennent se battre, des Californiens, des Texans, des Écossais, des Espagnols, déjà, faut parler les langues, ce que je parle. Devez être capable de très vite prendre des décisions, même si parfois vous savez que vous allez vous tromper. Et puis surtout, vous devez être conscient de la responsabilité que vous avez. Et ce sens de la responsabilité, lorsque vous savez que les gens viennent, parfois sont un peu perdus, on a essayé de traduire avec mon adjoint qui lui avait une expérience militaire longue acquise en Irak, un Britannique. On s'est complété, on a regardé les compétences qu'on avait, et puis ensuite on a dit, écoute, voilà, Florent, la priorité, c'est s'assurer que les gars prennent la décision d'aller au front en connaissance de cause.
C'est quoi les compétences?
Nous, ce qu'on allait rechercher, alors dans les premiers jours, c'était très large. Et puis ensuite, on a évidemment, au fur et à mesure où les semaines passaient, on rétrécissait. On prenait des gens qui avaient une expérience de formation militaire, je ne parle pas de combat, de formation militaire, et puis évidemment médicale. Ça nous intéressait beaucoup. Et puis très vite, on s'est concentré aussi sur les instructeurs. Parce que c'était ce dont la défense territoriale ukrainienne avait besoin. Et ils étaient preneurs de toute personne qui avait une expérience d'instruction militaire. Donc, en disant, voilà, moi, je ne viens pas combattre, mais je viens donner mon savoir-faire pour former les Ukrainiens pour qu'eux puissent se défendre.
Vous avez eu peur, parfois, Florent Coury ?
J'ai eu la chance de ne pas avoir peur du combat directement. Pour autant, vous avez peur. Moi, j'ai eu très, très peur les premiers jours. Déjà, les premières alertes aériennes. Ça ne nous est jamais tombé sur la base. C'est quelque chose qui fait extrêmement peur au début, lorsque vous passez plusieurs nuits dans les souterrains. Puis après, on dormait carrément dans les souterrains, c'était plus simple. Puis surtout, on attendait des attaques aéroportées. Et notamment, la peur, je l'ai eue parce qu'on n'avait pas d'armes. Et au début, c'est un peu irrationnel, parce que sinon, vous ne savez pas vraiment l'utiliser. Mais psychologiquement, ça change tout, d'avoir votre arme. Et lorsque j'ai fini par l'avoir, vous avez l'impression d'exister, de faire quelque chose dans un pays où vous dites, au détour d'un corridor, la nuit, vous allez tomber sur des parachutistes russes. Ou bien les Biélorusses descendront la frontière.
L'armée ukrainienne, Florent Coury, a gagné du terrain et récupéré des territoires importants, notamment près de Kherson. Comment vous expliquez le succès de cette contre-offensive de l'armée de Zelensky?
Tout d'abord, le courage, évidemment, la détermination du peuple ukrainien qui, si on en croit la propagande russe, n'existait pas avant la guerre. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que, quoi qu'il en soit, depuis cette guerre, le peuple existe. Mmh. Puisque lorsque vous êtes prêt à mourir pour quelque chose de plus grand que vous, cette chose plus grande que vous, elle existe. Donc c'est ça qu'on appelle une nation et la liberté d'une nation qui choisit son destin. Deuxièmement, il y a évidemment le soutien militaire énorme, américain avant tout, et puis d'autres pays, notamment européens. Et c'est évidemment ce soutien moderne et la technologie, notamment satellitaire, et les renseignements qui sont donnés qui permettent de comprendre les faiblesses de l'armée russe et donc de les cibler. Et puis troisièmement, vous avez évidemment la corruption de l'armée russe, puisque c'est évidemment l'illustration, je ne perds jamais une occasion de faire de l'éducation civique, la corruption de l'armée russe explique les problèmes de combat et pourquoi l'armée russe n'a pas gagné en 3 jours. Elle aurait dû gagner en une semaine, l'armée russe, face à une armée, pardonnez-moi, mais c'était quand même une armée de paysans d'un pays agricole extrêmement pauvre. Et ils n'ont pas de gaz, les Ukrainiens, aujourd'hui. Donc, la corruption de l'armée russe fait que, au-delà du matériel, en fait, la préparation, le niveau de préparation de ces troupes, notamment du matériel, des pièces de rechange, logistique et autres, les a empêchés de gagner en une semaine et aujourd'hui les empêche. Chaque jour et chaque semaine qui passe va les rapprocher un peu plus de la catastrophe du point de vue russe.
Vous parlez de Tom dès le premier chapitre de ce livre. Vous dressez le portrait de plusieurs personnes rencontrées dans la Légion géorgienne en Turquie, des profils totalement romanesques, j'ai presque envie de dire. On a beaucoup parlé de ces soldats français proches de l'extrême droite. Vous les avez vus, ces soldats français, là-bas ?
Alors, moi, j'ai rencontré un tout petit nombre de Français. Il y avait essentiellement des Anglo-Saxons, évidemment des Géorgiens en grand nombre, puisque j'étais dans la Légion géorgienne. Pour autant, les volontaires étrangers que moi j'ai eus, c'était notamment un vétéran de l'armée française qui avait fait 11 ans dans les parachutistes, qui avait fait des déploiements au Mali, en Afghanistan, en Centrafrique, qui n'était pas du tout affilié politiquement. On avait des instructions extrêmement claires de la part des services de renseignement ukrainiens et de la Légion géorgienne d'écarter tout profil qui prêterait à discussion, et notamment tous ceux qui confirmeraient la propagande russe, à savoir des militants néo-nazis ou d'extrême droite actifs. Maintenant, je vais dire les choses comme elles sont, et je le dis d'ailleurs, c'est un peu la critique que je fais par rapport au peuple de gauche, en tout cas autoproclamé de gauche en Europe, c'est qu'on avait essentiellement des gens qui venaient de droite, dure, voire d'extrême droite, qui étaient volontaires pour se battre du côté ukrainien. Et la question que je pose, c'est pourquoi diable est-ce que les gens de sensibilité de gauche ont décidé que l'Ukraine n'était pas une cause qui méritait d'être défendue?
On parlait tout à l'heure du gilet pare-balles à 4000 euros. Combien ça coûte d'aller au front? Combien ça coûte de s'armer pour aller aider les Ukrainiens?
Dans les premiers jours, les gens qui sont venus équipés, c'était surtout d'anciens militaires, et eux, ils avaient jusqu'à 4 à 5 000 euros de matériel sur eux.
C'est un réel investissement, en fait.
C'est un investissement, mais moi, j'ai rencontré des gens qui avaient quitté leur emploi, qui avaient vendu leur société pour financer les déplacements de la Légion.
Vous décrivez les températures négatives, les repas quotidiens, les entraînements collectifs, les alertes, les allers-retours aux abris. C'était quoi l'ambiance, Florent Coury, sur la base où vous étiez ?
J'étais sur une base de la défense territoriale, qui sont en fait la réserve civile, en fait, qui s'est formée depuis 6 mois, enfin depuis le début de la guerre, à devenir militaire, qui était en fait une base de bric et de broc, puisqu'en fait ça avait été réquisitionné en quelques jours. Donc on est arrivé alors que la base avait, si vous voulez, vous aviez deux bras zéro à l'entrée, quelques obstacles anti-char en travers de la route, et puis c'était tout. Et donc pour le reste, tout était improvisé, on n'avait pas de chauffage, il faisait moins 10 la nuit, la nourriture par contre, on a eu la chance, était excellente parce que les civils volontaires tout autour de nous venaient faire la cuisine pour nous. Pour autant, on partageait les abris souterrains avec des enfants, donc c'est une ambiance de chaos, mais aussi d'espoir, parce que Kiev ne tombait pas, et chaque jour où Kiev ne tombait pas, ça nous renforçait dans le sentiment que on avait un espoir de gagner.
Et d'ailleurs, vous insistez sur le téléphone portable. Comment ce téléphone portable, ces smartphones ont pu changer cette guerre? Comment ça a pu aider? Comment ça a pu renforcer votre courage dans votre engagement?
Alors, deux choses. Dans le livre, j'explique bien que le téléphone est omniprésent comme maintenant dans notre civilisation, même pas occidentale, mais partout. D'abord, il y a l'omniprésence des images de violence,
oui,
qui est quelque chose qui laissera des traces terrible dans la société ukrainienne, même jusque bien après la guerre, parce que tout le monde, je fais le
vous
portrait.
Vous avez vu ces réactions quand ils découvrent ces images d'Irpin, des massacres de Boutcha, de Borodianka?
Alors, Boutcha était après mon départ d'Ukraine, donc ça, j'ai pas constaté, mais par contre, il y avait des images très violentes de combat. C'est-à-dire qu'on voit des gens agonisants, on voit. Alors, moi, personnellement, j'ai décidé de pas les regarder. Mais je sais que tous mes amis et tous mes camarades, et surtout les civils, je fais un portrait d'une jeune femme ukrainienne qui nous aidait dans la logistique, qui elle était obsédée par ça et regardait toutes les vidéos d'atrocités. C'est un portrait qui est terrible parce que ça montre bien qu'il n'y a plus de différence avec le téléphone entre l'arrière et l'avant. Mmh. En fait, toutes les douleurs et tous les traumatismes se passent à travers le téléphone. Donc ça c'est un des enseignements. Deuxièmement, militairement, vous avez en fait l'information circule uniquement par des fils de chat. Il n'y a plus, les gens ne regardent pas de site internet, ils regardent les fils de chat et vous ne savez pas qui vous donne l'information. Et vous avez des centaines de milliers de messages qui cavale sur votre téléphone. Vous avez, l'armée ukrainienne a créé dès les premiers jours de la guerre une app où chaque civil pouvait immédiatement cliquer sur son téléphone et indiquer la présence de soldats russes. Mmh. Ce qui explique notamment la défense ukrainienne acharnée qui s'est passée et notamment certaines exactions contre les civils.
Vous comptez repartir en Ukraine en novembre, je crois? C'est une réflexion.
C'est une réflexion. J'ai dans l'idée de pouvoir témoigner de la réalité de ce que mes camarades vivent sur le front et donc peut-être d'écrire un deuxième livre. Voilà, c'est encore à décider. C'est assez difficile à vivre pour mon entourage.
Merci beaucoup, Florent Coury, pour ce récit engagé volontaire. C'est aux éditions Flammarion. Merci encore, Florent Coury.
Merci pour votre invitation.
Bon dimanche à vous.
Merci.
Les Américains parlent du phénomène Fianso. Il est français, il est numéro 1 en France et dans le monde avec son film Sous Emprise sur Netflix. Le rappeur, comédien, acteur Fianso est l'invité de Focus Dimanche sur RTL.
Voici sur RTL.
Focus Dimanche.
Tout ce qu'il touche, il le transforme en or. Poète, rappeur, comédien, acteur, Sofiane Zermani, que tout le monde appelle Fianso, enchaîne les succès. Il est à l'affiche de Sous-Emprise sur Netflix. C'est tout simplement le film le plus regardé au monde sur la plateforme américaine. Bonjour Sofiane, bonjour Fianso.
Bonjour l'équipe, comment ça va?
On est très heureux de vous recevoir dans Focus Dimanche sur RTL. Je le disais, on n'a pas tous les jours la chance de parler à quelqu'un qui est numéro 1 mondial sur Netflix. J'imagine que c'est une grande fierté.
C'est une grande fierté, on n'a pas non plus tous les jours la chance d'être sur RTL. Effectivement, non, c'est bien sûr, c'est une grande fierté, une grande satisfaction. Après, c'est le début d'un travail.
Vous avez 36 ans, vous êtes né le 21 juillet 1986, j'ai tout bon?
C'est ça.
Et vous lancez un message d'espoir, mais pourtant vous avez quitté l'école à 15 ans pour aller travailler avec votre père sur les marchés. Ça veut dire que c'est un message aussi pour ces jeunes de leur dire ne lâchez rien, parce qu'aujourd'hui, moi, je rattrape tout ça et je réussis.
Je pense que c'est les réactions les plus touchantes que je peux avoir en face de moi. C'est quand des plus jeunes que moi me disent « voilà, tu m'inspires, ça me donne énormément d'espoir, tu m'aides à me lever le matin, tu m'aides à rêver ». Et si j'ai été inspirant ou si je le suis, même un petit pourcentage dans la vie des gens, j'en suis plus qu'heureux. Et lâchez rien dans votre parcours, n'ayez pas peur surtout, parce que les endroits d'où on vient, on s'en interdit beaucoup des choses. Je me permets de vous renvoyer ça, Mohamed, parce qu'on vient des mêmes endroits et on a eu les mêmes aspirations et on s'est accroché à nos rêves, voilà. Et aujourd'hui, on est sur RTL.
Ouais, c'est que d'où l'on vienne, vous avez raison de le dire, des zones rurales, des quartiers difficiles, en France,
clairement,
de partout, c'est un très beau message. Sofiane, écoutez ça.
Bonsoir.
Chaos sonore.
Écoute, j'ai entendu Alexis Michalik s'essayer à quelques verres. Ouais. Je me suis dit que j'aurais peut-être l'audace de faire pareil.
Allez.
C'est bon, je peux? Super. Pour ceux que j'en connais, le casteur de ma vie, c'est moi. chanteur de mon parking, on me jugeait doué. Oubliant sacrifice, les années, le travail, acteurs et musiciens ne parlent que de jouer. Chacun sa partition quand les rêves nous retardent. La vie inspire l'auteur.
Sofiane,
l'auteur
inspire en 2022, vous remettiez un César lors de cette cérémonie devant toutes les plus grandes stars du cinéma français. Tout le monde a félicité votre discours, votre classe. Si vous aviez un conseil pour ces auditeurs d'RTL qui nous écoutent aujourd'hui, plus jeunes, qui vivent à Saint-Denis, au Blanc-Mesnil, mais qui peuvent vivre aussi à 25 km de Noyon, en Picardie, à 25 km de Brest, à 30 km de Limoges, et qui veulent s'en sortir. Comment on fait pour passer du Clos Saint-Lazare, des quartiers, à la cérémonie des Césars ?
Je pense déjà que le terme, en fait, il y a un terme qu'on entend depuis qu'on est très jeune, c'est s'en sortir. On a l'impression qu'il faut sortir de quelque part, qu'il faut se sauver de quelque part, qu'il faut s'extraire de quelque part. Je suis pas d'accord avec cette théorie. Je pense que peu importe l'endroit d'où on vient, on peut embellir sa vie par la culture, par l'art. On peut embellir sa vie et embellir ses endroits dans lesquels on grandit. Donc le terme s'en sortir me chiffonne un peu. Mais ce que je peux leur dire moi, en réalité, c'est évidemment, je pense que je suis un cas d'école et que je peux le dire. En tout cas, j'en ai la légitimité. Tout est possible. Concentrez-vous sur le positif. Essayez d'être heureux au-delà de tout ça.
Je l'ai dit en préambule, Sofiane, vous savez tout faire. Il y a 5 ans, c'était ça.
Il a plus grand sens à perdre. Mon kilo, mon kilo, mon kilo. Il est calibré.
Chanter à Mon Petit Loup il y a 5 ans, surtout les enfants, surtout les adolescents. Il dirait quoi aujourd'hui Fianso, au Fianso d'il y a 5 ans qui était capable de faire ça et qui était capable d'enchaîner les hits de rap?
Oh, il lui dirait sois patient et reste concentré, voilà ce que je lui dirais.
C'est vrai que ça a été rapide aussi pour vous Fianso, peut-être pas assez vite, mais vous avez été en tête de tous les charts, comme on dit, de tous les classements, avec vos titres, avec votre rap et avec votre façon d'écrire aussi. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot de poète. Vous étiez un poète moderne avec ce rap.
Un petit peu, et puis de toute façon, j'avais cet amour des mots, et je pense que c'est ce qui m'a fait venir à l'art en règle générale. C'est l'amour des mots et d'ailleurs de la poésie. Et c'est de là que tout part et c'est de là que tout vient. C'est toujours flatteur.
Dans la foulée du succès de vos albums musicaux, vous allez au Festival d'Avignon en 2018. Vous interprétez Gatsby le Magnifique. Vous m'avez enchanté avant et après. Pendant, c'était magnifique de vous voir sur scène. Et après, quand j'ai découvert cette phrase, pourquoi est-ce qu'un mec qui va à un concert de rap n'irait pas au théâtre?
Je pense qu'on l'a démontré. On a fait découvrir une œuvre à une génération plus jeune, qui d'ailleurs pour plein d'entre eux n'en avait jamais entendu parler. Ne serait-ce que ça, c'est déjà une super victoire.
Sofiane, donner la culture aux autres, en tout cas faire emmener ces jeunes vers d'autres aspects culturels, c'est ce que vous disiez votre maman, secrétaire à France Loisirs, quand vous étiez plus jeune.
Ma mère m'a fait ressentir ce partage. C'est pas forcément ce qu'elle me disait, notamment l'écriture, la littérature, la poésie, la chanson française. C'est elle qui m'y a amené. Et du fait qu'elle partage ça avec moi naturellement, je pense que c'est ce qui m'a permis, moi, d'avoir ce réflexe de partager naturellement en réalité. Pour ceux qui sont sensibles à cette culture, on a un espèce de dépôt, de devoir, de partager. Et c'est ce que j'essaye de faire un petit peu avec tous les aspects de mes arts. Voilà.
Et quand on grandit à Saint-Denis, quand on habite la cité du Clos de Saint-Lazare à Astin, avant de partir vers le Blanc-Mesnil dans le 93, on accède facilement à la culture, Sofiane?
Alors, oui et non. Parce que on avait quand même des acteurs locaux qui se battaient pour nous emmener voir des pièces, qui se battaient. Je me souviens, moi, la première fois que je suis monté sur une scène pour chanter du rap, c'était autour d'un atelier de ma ville, à la mission locale de Blanc-Mesnil à l'époque. Et on nous avait emmené à Bagnolet sur une scène chanter du Antonin Artaud. Donc on rappait du Antonin Artaud. Donc on arrive avec nos bagages culturels, on rencontre d'autres personnes qui ont leur bagage culturel, et là on échange. Et là ça devient intéressant, vraiment. Donc je pense qu'il y a des gens, des acteurs par exemple de la littérature qui viennent de ces endroits-là. Je pense à par exemple à Faïza Gane qui vient de Pantin, oui, ou d'autres. Et finalement quand on va fouiller, quand on va chercher, quand on est un peu curieux, la culture se refuse pas à nous.
Fianso, Sofiane Zermani, je vous pose la question dans quelques secondes. Comment on fait pour être le numéro 1 mondial sur Netflix chez les Américains? Quel est votre prochain rêve? Vous restez avec nous, on se retrouve dans quelques secondes sur RTL dans Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Parole Entrepreneur va à la rencontre d'entrepreneurs engagés aux côtés de leurs salariés qui ont su innover avec des projets porteurs de sens. Retrouvez leur portrait chaque week-end sur M6 avec Harmonie Mutuelle.
savoir sur l'audition avec Amplifon. Hervé Cohen, vous êtes audioprothésiste chez Amplifon, premier réseau de France dédié à l'audition. Alors les nouvelles aides auditives peuvent-elles changer notre quotidien ?
Oui, ces dispositifs médicaux, comme la gamme Ampli Énergie d'Amplifon, permettent une compréhension optimale en captant les moindres détails des conversations, même lorsqu'il y a du bruit.
Et pour faire un essai gratuit ?
Il suffit de se munir d'une ordonnance de son ORL et de demander conseil à son audioprothésiste en prenant rendez-vous sur amplifon.fr.
Merci.
Angélique, c'est le nouveau roman de Guillaume Musso. Après un accident cardiaque, Mathias se réveille à l'hôpital. Une jeune fille inconnue se tient à ses côtés. Lorsqu'elle apprend que Mathias est flic, elle lui demande d'éclaircir le mystère de la mort de sa mère, la danseuse étoile Stella Petrenko. Les voilà plongés dans une enquête hors du commun, où même les anges ont leurs démons. Angélique, un roman éblouissant de Guillaume Musso, aux éditions Calman Lévy.
Focus dimanche sur RTL.
Fianso, Sofiane Zermani à l'affiche de Sous-Emprise sur Netflix, numéro 1 mondial, et l'invité de Focus Dimanche sur RTL. Fianso, Sofiane, Sous-Emprise, c'est quoi le pitch de ce film qui est devenu tout simplement le film le plus regardé au monde sur la plus grande plateforme de streaming?
Le pitch de ce film, c'est, ça va être la relation entre un immense champion qui s'appelle Pascal Gauthier et une jeune qui va tomber amoureuse folle de cet immense champion et s'initier à l'apnée, qui s'appelle Roxana Aubry, et qui va devenir une énorme championne, compliquant les relations du couple, partant vraiment dans une histoire d'amour toxique entre les deux. Et on va les voir se battre pour leurs rêves, on va les voir se battre pour préserver ce qu'ils ont d'eux, et on va les voir se déchirer. C'est un vrai zoom et un vrai focus sur cette relation toxique, sur cette relation humaine qui peut vite tourner mal entre un homme et une femme qui s'aiment un peu trop, et de cadres somptueux et des décors d'ailleurs magnifiques dans ce film. C'est vraiment la découverte du monde de l'apnée, du monde de ses compétitions, et on va vraiment à la rencontre d'un monde et à la rencontre d'une discipline souvent méconnue, mais en tout cas que moi j'ai été très fier de montrer.
C'est un thriller paranoïaque, haletant. C'est inspiré d'une histoire vraie, Sofiane.
C'est inspiré d'une histoire vraie, ouais. Ça a été évidemment romancé par l'auteur, par David Rosenthal, qui en est le réalisateur aussi. Mais oui, il s'est inspiré de l'histoire d'Audrey Mestre, décédée dans un accident tragique pendant une compétition d'apnée. Et c'était une Française que tout le monde aimait. Et ce choc a été une réelle déflagration dans le monde de l'apnée. D'ailleurs, les compétitions seront revues. Certaines disciplines de l'apnée seront interdites à la suite de cet accident. Cette jeune femme qui nous a quittés à un âge où on ne devrait pas nous quitter, qui était une énorme championne. Et c'est clairement l'événement, je pense, le plus tragique, le plus important ces 20 dernières années dans ce monde-là.
Sofiane, ça, c'était en 1988. C'est le Grand Bleu. Le Grand Bleu de Luc Besson, avec cette concurrence entre Jacques Mayol et Enzo Marc Mallorca dans le Grand Bleu. Ouais. 88, le Grand Bleu. 2022, Sous-Emprise. Il y a une bonne inspiration quand même. Il y a des images qui se ressemblent, des décors qui sont fantastiques. Bon, vous allez me dire, le décor c'est le même, c'est l'eau. Je suis d'accord, mais il y a une inspiration, j'ai l'impression.
Bah, je pense que c'est complètement assumé en fait. On est tous des amoureux du Grand Bleu. On est tous des amoureux du Grand Bleu, et même si c'est vrai que Sous-Emprise s'inspirait d'une histoire vraie. On était, nous, sur le tournage. Moi, j'ai cherché à rencontrer les coachs qu'avaient eu Jean-Marc Barre et Jean Reno. J'ai cherché à connaître leurs performances, j'ai voulu savoir leur temps d'entraînement. J'étais pas en comparaison, mais en fait, il y a eu deux films sur ce monde de l'apnée dans l'histoire, je crois. C'est Le Grand Bleu et Sous-Emprise. Donc évidemment, pour le respect, l'admiration ultime que j'ai pour ce film, quand on m'a dit c'est un film sur le monde de l'apnée, évidemment, la référence a été immédiate. Et on a juste essayé d'éviter la comparaison parce que ce film est juste immense et énorme. Mais évidemment, je me ressentais pas dans la peau d'eux. Mais maintenant, ayant rencontré Jean-Marc Barre, on a vécu un peu pareil.
Sofiane, vous ne vous êtes pas fixé de limite dans ce film. Et quand je parle de limite, je parle de limite physique. Pour travailler ce rôle, vous êtes descendu seul à 31 mètres de profondeur. Je regardais le film et je me disais, elle est pas mal la doublure, elle lui ressemble quand même pas mal. Et en fait, c'était vraiment vous.
Ouais, j'ai eu donc un coach qui m'a suivi pendant peu de temps. D'ailleurs, on a eu peu de temps pour l'entraînement, mais qui s'appelle Stéphane Mifsud, qui est le recordman du monde d'apnée statique et qui est une équipe. Et en fait, je ne suis pas venu à l'apnée autour de la préparation pour un film. Je suis vraiment venu à l'apnée autour de la rencontre et de la présentation qu'ont pu me faire des gens passionnés de cette discipline et de ce sport. Et j'ai aimé l'apnée et j'ai
Alors qu'à la base, vous avez peur de l'eau, Sofiane. C'est quand même assez dingue. Vous avez peur de l'eau, vous descendez à 31 mètres. Donc quand vous appréciez quelque chose, vous faites quoi en fait?
Non, c'est vrai que je suis un compétiteur et j'ai aimé cette discipline et j'avais envie de montrer à mon coach, à son équipe et à tous ceux avec qui je vivais ce film que j'étais pas venu en touriste, mais je voulais que ce soit mon visage qu'on voit descendre. Et voilà, tout simplement.
Vous avez l'impression parfois qu'on met trop facilement les gens dans des cases. Alors, vous dites il faut se faire plaisir et ne surtout pas se fixer de cloisons. C'est quoi la prochaine étape? Il y a eu le théâtre, le cinéma, la musique. C'est quoi la prochaine étape?
Je sais pas. Là, je suis très... Il y a un dicton anglais que j'aime beaucoup, c'est more of the same. C'est-à-dire que je veux plus de la même chose en fait. Je vous le dis sur RTL, c'est en train de changer ma vie en fait. Jouer dans des films, c'est en train de changer ma vie. Je suis en train de découvrir quelque chose qui me fait me lever le matin, qui m'astreint une discipline dans ma vie et dans mon cœur. Et c'est juste énorme en fait ce qui est en train de se passer en termes de vie perso. Je parle au-delà du succès, au-delà de tout ça. Je suis vraiment en train de tomber amoureux de ça en fait. Donc là, j'ai envie de jouer dans des grands films. J'ai envie de jouer avec des comédiens que j'admire depuis l'enfance. J'ai envie de faire des grands films. Le théâtre aussi. J'ai encore envie de monter sur des scènes. J'ai envie d'upgrader en m'attaquant à des pièces encore plus grandes, avec à des auteurs encore plus classiques ou contemporains d'ailleurs. Et en termes de musique, je pense qu'on va continuer. J'étais encore au Canada en festival il y a quelques jours. On a fait une belle tournée d'été. Et puis je pense ressortir de la musique incessamment sous peu. Donc juste plus de la même chose.
Un de vos 25 projets, c'est aussi la Star Academy. Je voulais en dire un petit mot. Vous permettez à des jeunes détenus de se reconstruire dans leur réinsertion via l'écriture. Et je sais que ça vous tient à cœur.
En réalité, Mouloud Mansouri, qui est un ancien détenu, qui a fait, je crois, 10 ans de prison, quelque chose comme ça. Et qui, lui, a été aidé pendant son parcours carcéral à se réinsérer par la culture. Et donc par le rap, et par l'écriture, et par le théâtre, et par plein d'autres activités. Et en fait, une fois sorti, il a voulu continuer à faire ça avec ses jeunes en détention. Et être préparé à l'extérieur, ça compte, en réalité. Donc, effectivement, je crois que c'est la deuxième édition de la Star Academy. Et c'est un truc qui rend fier, ouais, clairement, ça me tient à cœur.
Merci Sofiane d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Focus Dimanche sur RTL. Sous emprise, c'est surtout à ne pas rater sur Netflix et c'est une belle réussite. Bon dimanche Sofiane.
Merci beaucoup.
Jeudi 29 septembre, la France va commémorer les 120 ans de la mort d'Émile Zola. Que reste-t-il de son héritage en France? Son arrière-petite-fille, Martine Leblond-Zola, est avec nous en studio dans quelques secondes sur RTL.
Focus Dimanche sur RTL.
Carrefour. La filière qualité Carrefour, ce sont nos producteurs partenaires qui en parlent le mieux.
Je m'appelle Didier, on produit des céréales principalement, et notamment de l'épeautre pour la filière qualité Carrefour. Ce qu'on trouve de bien dans la filière qualité Carrefour, c'est la garantie du prix.
La filière qualité Carrefour, mieux pour tous. Retrouvez tous nos engagements sur carrefour.fr. Carrefour.
Savez-vous comment on reconnaît une insuffisance cardiaque? Non? Vous n'êtes pas seul. Parce que des centaines de milliers de Français qui vivent avec cette maladie ne le savent pas non plus. Essoufflement inhabituel, prise de poids rapide, pieds et chevilles gonflés, fatigue excessive. Si vous constatez un ou plusieurs de ces signes, surtout après 60 ans, vous souffrez peut-être d'insuffisance cardiaque. Parlez-en à votre médecin.
L'assurance maladie. Le bon dimanche chaud.
Bonjour, c'est Bruno Guillon et ce dimanche entre 14h et 15h30 sur RTL, je reçois la divine et la diva, Marianne James.
Tout à l'heure, dès 14h sur RTL, Marianne James est l'invitée du bon dimanche chaud, présentée par Bruno Guillon.
A tout à l'heure sur RTL.
Focus dimanche.
Mohamed Bouafsi.
Émile Zola est l'un des plus grands auteurs français, de Germinal à Thérèse Raquin, en passant par le célèbre J'accuse. Jeudi 29 septembre, la France commémorera les 120 ans de la mort d'une icône de la littérature française. Bonjour Martine Leblond-Zola.
Bonjour, monsieur.
Vous êtes l'arrière-petite-fille d'Émile Zola. Qu'est-ce que vous allez ressentir jeudi prochain pour ses 120 ans?
Oui, bah, toujours une émotion. Pourquoi? Parce que d'abord, Zola est mort dans des conditions mystérieuses qui n'ont pas été éclairées, puisqu'il est mort asphyxié du monoxyde de carbone et sans doute dû à... Bon, un assassinat politique, mais nous n'avons pas la preuve, donc ce n'est qu'une hypothèse, mais qui peut être crédible. Donc pour nous, c'est toujours un moment de deuil et de recueillement, car Zola est mort à l'âge de 62 ans, en pleine forme. Et quand on imagine ce qu'il a pu écrire jusqu'à l'âge de 62 ans, s'il avait vécu au moins une dizaine d'années de plus, comme il était en parfaite santé, ça aurait été merveilleux, puisqu'à l'aube de sa mort, il avait beaucoup de projets, notamment pour écrire des romans beaucoup plus utopistes, humanistes, pour améliorer encore l'humanité. Donc c'est sûr qu'à titre personnel, c'est difficile, puisqu'il a dû également souffrir quand il est mort, parce qu'il a dû sentir étouffé. Et en tant qu'arrière petite fille, c'est mon arrière-grand-père. Hein. Ça fait toujours de la peine. Et puis au niveau aussi de l'humanité, parce que Zola est un homme qui a eu soif d'humanité, qui a dénoncé toutes les iniquités sociales.
Et d'ailleurs, que reste-t-il d'Émile Zola dans notre société?
Émile Zola, c'était un éveilleur de conscience. Il a défendu les valeurs de la République, la laïcité, la fraternité, la solidarité. Et vraiment, Zola est un exemple d'humanisme et de valeurs morales dont on a beaucoup besoin aujourd'hui, dans cette société qui est devenue très matérielle. Zola était un écologiste avant l'heure. Il a dénoncé la prédation de l'homme sur l'homme, mais maintenant, je pense qu'il dénoncerait la prédation de l'homme sur la nature. Et c'est très grave, parce que l'homme fait partie intégrante de la nature et on est en train de s'auto-détruire.
Vous savez quand est-ce qu'il a eu ce déclic sur ce versant humaniste?
Mais très jeune. Très jeune, parce que Zola a perdu son père à l'âge de 7 ans et il s'est trouvé confronté avec sa mère, une jeune veuve, à des difficultés matérielles. Et quand il était arrivé à Paris à l'âge de 18 ans, il a rencontré la misère. Il a fréquenté cette misère dans les faubourgs. Il allait au Mont-de-Piété pour s'habiller. Il a vraiment rencontré la misère et c'est ça qui lui a donné cette envie de dénoncer tous les maux de la société, toute cette misère, afin qu'il y ait moins de gens en dehors de cette société. Et Zola disait « Je serai toujours du parti des vaincus, des faibles ». Très jeune, il a compris cela. C'est vraiment un humanisme, je dirais, avec un grand H. Et c'est vraiment un exemple. L'heure actuelle, qui est... C'est pas parce que c'est mon arrière-grand-père. Je pense que si
vous en parlez d'ailleurs avec beaucoup d'émotion.
Non, mais en fait, parce que déjà il y a la fibre naturelle, mais en même temps, c'était vraiment quelqu'un de très généreux, très moderne, en fait. Voilà. Donc c'est une boussole, cet homme. C'est un exemple pour le. Voilà.
Martine Leblon-Zola. J'ai un petit cadeau pour vous et pour tous les auditeurs de Focus Dimanche sur RTL. Écoutez cette archive exceptionnelle de 1912.
Mon affaire était terminée. Le lieutenant-colonel Picard avait été réintégré dans l'armée avec le grade de général de brigade comme compensation des persécutions qu'il avait subies pour m'avoir défendu dès qu'il eut acquis la conviction de mon innocence.
Elle est tout simplement exceptionnelle, Martine Leblon-Zola, cette archive qui date de 1912, découverte par la Bibliothèque nationale de France. C'est très émouvant d'entendre, de réécouter cette voix d'Alfred Dreyfus, ce capitaine qui s'est battu contre la haine de ces anti-Dreyfusards à travers le J'accuse, un plaidoyer, là aussi, un plaidoyer pour l'humanité.
Oui, tout à fait. C'est toujours émouvant d'entendre la voix de Dreyfus, alors que la voix d'Émile Zola, dont Zola n'a pas été enregistré. Donc c'est toujours une grande émotion. Et puis rendre hommage aussi au capitaine Dreyfus qui a été une victime dans cette affaire. Donc cet homme a excessivement souffert et c'est toujours très émouvant d'entendre sa voix, effectivement. Et j'aimais beaucoup la petite fille d'Alfred Dreyfus, Simone Perle, qui est décédée maintenant il y a à peu près 20 ans. Et au moment du centenaire de l'affaire Dreyfus, je me souviens, j'étais dans son salon, on était assises l'une à côté de l'autre dans un fauteuil et on parlait d'antisémitisme. Et elle m'avait dit, je me souviendrai toute ma vie de l'expression de son visage, « Ah, vous savez Martine, l'antisémitisme perdurera toujours. » Il y avait, dans ce regard de cette femme, mais vraiment un désarroi, une peine, dire, ben, de toute façon, bon, on a beau faire, c'est criminel. Et si Zola revenait aujourd'hui, il serait vraiment dans le plus grand désarroi. Parce que lui, il pensait que l'avancée des technologies, de la science, allait améliorer la condition humaine. Certes, les avancées technologiques ont amélioré la société, bon, mais dans l'intellect, dans la façon de vivre les uns avec les autres, non. L'homme n'a pas changé, en fait. C'est triste.
Jeudi prochain, la France va commémorer les 120 ans de la mort d'Émile Zola. Martine Leblond-Zola, vous êtes l'invitée de Focus Dimanche sur RTL. Même la mort de votre arrière-grand-père fut romanesque. Le 29 septembre 1902, de retour de Médan, où il avait passé l'été, Émile Zola et son épouse Alexandrine sont intoxiqués dans la nuit par la combustion lente résiduelle d'un feu couvert, produite par la cheminée de leur chambre. Alexandrine va survivre à cet incendie, à cette soirée terrible. Il y a encore des rumeurs 120 ans après sur la mort d'Émile Zola, Martine Leblond Zola. Certains disent même qu'il a été assassiné par les anti-Dreyfusards, par l'extrême droite. On ne sait pas.
Oui, vous dites rumeur. Pourquoi rumeur? Parce qu'il n'y a pas eu d'enquête. Le dossier d'instruction a disparu. Il n'y a pas eu d'enquête. Mais ça, c'était aussi la volonté de Madame Zola. Il ne fallait pas raviver le scandale. Vous savez, ça a été terrible au moment de l'affaire Dreyfus. Zola, on lui envoyait des pierres du pont de sa maison à Médan. On lui avait déposé une bombe au pied de son immeuble, 21 bis rue de Bruxelles à Paris. Il recevait des lettres anonymes. Il était hué. Il y a eu le procès Zola. Enfin, de tas de choses comme ça. C'était abominable. Alors que cet homme voulait... qu'est-ce que l'affaire Dreyfus, c'était sortir un homme du bagne. C'est une histoire d'humanité, d'homme, alors que Zola ne connaissait pas Dreyfus. Et effectivement, Madame Zola n'a pas voulu raviver toutes ces formes de scandale. Mais dès lors qu'il n'y a pas eu d'enquête, on ne peut pas dire que Zola a été assassiné. C'est une hypothèse crédible, hein, ça je ne dis pas, hein, étant donné le contexte de l'époque, sans doute. Mais on ne peut pas affirmer. Bon, ça a pu être aussi une mauvaise blague qui a tourné, en fait. Comme on disait à l'époque, on va enfumer ce cochon. Oui, pourquoi pas. Mais les rumeurs continuent. Bon, ça fait couler de l'encre. Hein.
Jeudi prochain, jeudi 29 septembre, reprenez Germinal, reprenez L'Assommoir, reprenez tous ces livres et lisez-les toute l'année. Et surtout, allez visiter la maison d'Émile Zola, l'association Émile Zola à Médan et la maison d'Alfred Dreyfus aussi. L'association Zola et la maison d'Alfred Dreyfus à Médan, dont vous êtes la vice-présidente.
Oui, alors notre association s'appelle Maison Zola Musée Dreyfus. La maison d'Émile Zola a été restaurée grâce au bienfait de Pierre Berger. Et également aussi des partenaires publics comme le département, la région, en fait, l'État également. Et à côté, dans une annexe de la propriété, a été érigé un musée Dreyfus, inauguré au mois d'octobre par le président de la République. Et ces deux bâtiments se visitent. Bon, c'est un domaine absolument magnifique, qui se développe sur un hectare dans la nature. En fait, c'est un voyage dans le passé.
Relire le passé pour écrire l'histoire. Merci beaucoup, Martine Leblond-Zola, d'avoir été l'invitée de Focus Dimanche sur RTL. On vous souhaite un bon dimanche.
Oui, merci.
Lisez
merci
Zola.
Beaucoup.
Merci à vous, Martine Leblond-Zola. Merci bon bien. Dimanche à vous. Vous voulez manger sainement et pas cher? L'ancienne star de Top Chef, Diego Alari, vous donnera toutes ses recettes dans quelques secondes sur RTL, dans Focus Dimanche.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.
Vous jouez au tennis, vous, monsieur?
Pas trop, non. Moi, je suis plus tennis de table. L'été, avec les copains, avec la gouvernante et tout, on aime bien. Pourquoi avec la gouvernante ?
J'ai une gouvernante.
Bah, en tout cas, moi, le fils de mon chauffeur est champion.
Bon, on est content pour la gouvernante de Toen et le fils de votre chauffeur.
Les Grosses Têtes, chaque jour à 15h30 sur RTL.
RTL, rire ensemble.
Tout savoir sur l'électrification avec Jeep. Jeep est 100% électrifié et propose une large gamme de modèles hybrides et hybrides rechargeables. Alex, vous êtes notre spécialiste auto. Alors, les aides à l'achat de cette gamme ont finalement été reconduites.
En effet, notamment le bonus écologique de 1000 euros d'aide à l'achat des hybrides rechargeables. Il est prolongé jusqu'à fin 2022.
Et quels sont les modèles concernés ?
Les Renegade et Compass 4XE hybrides rechargeables de Jeep. Ils offrent de vrais atouts économiques avec une autonomie électrique de plus de 50 km en ville et des avantages fiscaux pour les entreprises, tout comme les Wrangler et Grand Cherokee.
Et Jeep dispose d'un stock de véhicules prêts à être livrés, je crois.
Tout à fait. Et vous pouvez demander votre essai dans l'un des 135 points de vente ou commander en ligne sur Jeep.fr.
Merci.
Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Alors comme ça, t'es abonné chez Reef, toi.
Si Free crée Reef pour faire encore mieux que ce que Free fait déjà, bah j'y vais. Tu vois, chez Reef, ils ont la fibre la plus rapide sur les débits.
Chez Free aussi, en fait.
Ouais, mais chez Reef, t'as un magnéto fer. Tu sais, pour coller sur le frigo.
Ah oui, quand même.
Un jour, peut-être, Reef fera mieux que Free. En attendant, chez Free, retrouvez la fibre la plus rapide sur les débits dès 15,99€ par mois.
Offre Freebox dès 15,99€ par mois pendant un an, puis 34,99€ par mois. Débit moyen selon baromètre NPerf 2021, engagement un an. Offre soumise à conditions et éligibilité. Rendez-vous sur free.fr.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus dimanche.
C'est la nouvelle star des cuisiniers en France, l'un des chouchous des Français dans Top Chef, le cuisinier préféré des jeunes qui sont 4 millions à le suivre sur les réseaux sociaux. Diego Alari publie un livre utile pour tous et surtout en cette période compliqué, le guide des recettes faciles et surtout pas chères. Ce sont les clés offertes par ce chef pour les étudiants plus particulièrement. Bonjour Diego.
Bonjour.
Diego, quand vous entendez ça...
Je connais bien ça.
Vous connaissez très très bien, non ? Ce générique, très, très le générique bien. De Top Chef.
C'est ça.
Ça vous fait quoi d'entendre ça ? C'est là où tout a commencé, on va dire, presque.
Ouais, ben ça me remémore plein de bons souvenirs. C'était une très très belle aventure. J'ai rencontré des super personnes avec qui je suis toujours en contact. On a bougé un peu partout dans la France, cuisiné dans plein de restaurants. Donc non, c'était génial. C'était un peu le petit tremplin, quoi, on va dire.
Et d'ailleurs, Diego, vous dites que la cuisine vous a sauvé la vie. Pourquoi ?
Oui, ben parce que m'a sauvé la vie, parce qu'en fait, moi j'ai commencé très tôt le football à la base. Je faisais beaucoup de foot. J'étais en centre de formation. Et puis, d'un coup, j'ai eu une grosse blessure. Et en fait, la cuisine, on va dire, m'a ramené un peu à la raison. Enfin, ma mère, au début, m'a ramené à la raison et m'a conseillé de faire de la cuisine, puisque moi, j'ai grandi un peu en famille dans ça, avec ma mère qui recevait beaucoup les gens, le week-end, les gros dîners, etc. Et puis, voilà, on va dire que la cuisine m'a redonné une structure comme j'avais dans le football au tout début. Et m'a aidé, en fait, tous les jours, m'a rythmé, en fait, le fait de travailler, de faire un apprentissage, dès 15 ans, etc. Ça m'a mis dedans et voilà, ça m'a jamais lâché, en fait.
Vous avez, Diego, plus de 4 millions de suiveurs sur les réseaux sociaux, entre TikTok, Instagram. Ça a explosé pendant le confinement où vous donniez cette petite recette en 2 minutes. Partout dans le monde, on s'arrache Diego Alari. C'est dur de garder la tête quand on a à peine 25 ans. La tête sur les épaules, hein. C'est la tête, oui. On la garde.
Non, c'est un peu un rêve, ce qui m'arrive depuis maintenant plus de 2 ans. Mais oui, je garde la tête sur les épaules. Comme je vous ai dit, je travaille beaucoup. Je continue, quoi. Ça s'arrête jamais, mais c'est cool que des projets, que des gens qui m'envoient des messages, que du partage. C'est que du plaisir.
Comment on perçoit ce changement de notoriété, Diego ?
Moi, ça a commencé en premier avec Top Chef. Il y a eu Top Chef, c'était un petit tremplin. Et puis, au final, tout s'est fait en accéléré. Il y a eu le confinement, il a fallu du coup se diversifier, faire quelque chose. Donc, j'ai pas vraiment eu le temps de me poser la question. Et tout s'est enchaîné très, très vite.
Est-ce qu'il y a Il y a une recette qui a marqué les Français ou ceux qui vous ont suivi, la première recette. Vous avez un souvenir de cette première recette que vous avez publiée sur les réseaux sociaux ?
Il y a plusieurs recettes. Il y a des recettes avant Top Chef, il y a des recettes pendant Top Chef, mais celle, on va dire, qui m'a fait... Oui, il y a eu un petit tremplin quand même. C'était du coup juste avant le confinement. C'est une recette d'avocat flambé au guacamole. D'avocat flambé à la tequila. Et c'est la recette qui a, enfin, en 24 heures, elle a eu plus d'un million de vues. Il y a eu plein de partages, recevait plein de messages. C'était dingue. Ouais, c'est la première recette, c'est ce guacamole d'avocat flambé à la tequila.
Avec un peu de piment aussi, hein.
Avec un petit peu de piment toujours, ouais.
Et pas trop quand même de tequila, hein. Faut consommer avec modération.
Mais on la flambe, donc du coup à la fin, il y a plus d'alcool.
Ouais, voilà, c'est le plus important, c'est à flamber, hein. C'est pas
c'est
consommer
à, flamber,
à côté
exactement.
De l'avocat.
Exactement.
Alors pour expliquer à nos auditeurs de Focus Dimanche qui nous écoutent actuellement sur RTL, quand on parle de l'un des chefs les plus appréciés actuellement, c'est pas un mensonge, c'est-à-dire que vous avez travaillé avec Alain Ducasse, avec Jean Humbert, avec Guy Savoy. Diego, vous avez appris quoi auprès de ces très grands chefs?
J'ai appris, je pense, déjà les bases, et puis surtout le travail, quoi, la volonté, le fait de ne pas lâcher tous les jours, les petites astuces de cuisinier à la française, la rigueur, beaucoup 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 de rigueur, et puis chez chaque chef différent quand tu commences. À faire des maisons comme ça quand t'es très jeune, tu t'apprends chez chacun des choses différentes, etc. Et ça me sert aujourd'hui, même si tous les jours j'en apprends encore sur la cuisine. Vraiment, je pense que c'est un métier où t'apprends vraiment tous les jours. Mais ça me sert en fait, c'est des petites bases qui me servent vraiment tous les jours.
Ducasse, Humbert, Guy Savoy, qui est le plus exigeant?
Est-ce que j'ai le droit de répondre à cette question?
Oui.
Non, je pense que c'est trois chefs complètement différents. C'est vraiment trois chefs complètement différents. Et les trois ont une grosse, grosse exigence et on peut pas, c'est incomparable.
Ouais, ça c'est l'époque football, vous avez gardé la langue de bois, Diego. Hein. Le plus important c'est les trois points, on prend les matchs les uns après les autres, etc. Et on choisit
ça,
pas le meilleur chef. Non. Diego, on revient sur ce guide des recettes faciles. Pourquoi avoir écrit ce guide?
Mais j'ai écrit ce guide parce qu'en fait je recevais beaucoup de messages à la base de jeunes me demandant par exemple pour manger en fait souvent ils mangeaient souvent la même chose et voilà ils me demandaient si j'avais des petites idées à faire avec peu de matériel, des petites recettes et surtout en peu de temps en fait j'avais adoré faire un livre déjà il y a un an qui a bien marché donc j'étais très content, j'avais adoré proposer un objet aux gens en fait. Et du coup, je me suis relancé un peu dans cette aventure. Du coup, j'ai mis un peu mes côtés chef de cuisine, d'étoilé, etc., expérimenté de côté. Et je me suis mis un petit challenge, en fait. Et je me suis dit, essaye de faire des recettes, de partir à base d'éléments différents. Pas de grandes recettes, mais par exemple, de prendre le yaourt qui traîne au fond de ton frigo, ou alors cette boîte de maïs qui traîne au fond du placard. Et comme ça, d'en faire des petites recettes. Avec vraiment pas beaucoup de matériel et surtout à faire en peu de temps quoi et des recettes toujours surprenantes et très bonnes quoi.
Et c'est intéressant aussi quand on découvre le livre. Bon, j'ai pris 4 kilos juste en regardant les photos Diego parce que c'est appétissant, c'est riche, c'est magnifique, j'avais envie de tout manger après chaque page, mais c'est aussi les messages des parents Diego qui vous ont donné envie d'écrire ce livre. En clair, des parents qui vous disaient sur Instagram, sur Twitter, sur TikTok, donner des petites consignes, des clés à nos enfants qui vivent tout seuls chez eux, en face de leur université, pour essayer de les faire manger sainement. Ça vous a touché, je crois, ça aussi.
Exactement, c'est ce que je disais. Je recevais pas mal de messages et il y avait vraiment une demande autour de ça. Ça fait maintenant un an et demi que je reçois pas mal de messages autour de ça et ça m'a donné envie de le faire et ça m'a donné envie de faire ce challenge en fait, d'y aller, de se dire change complètement de recette, etc. Essaie de te mettre à fond à leur place. Donc j'ai fait les testings, je me suis un peu enfermé pendant une semaine dans une petite cuisine et du coup j'ai fait ces petits testings de recettes comme ça. Non, je suis super, super content du résultat et je pense que ça plaît puisque j'ai pas mal de retours. Déjà, ça fait, je crois, une petite semaine qu'on a sorti le guide et je commence à avoir pas mal de retours et non, c'est super, c'est génial.
Et d'ailleurs, vous insistez sur le mot recette pas cher aussi, enfin les mots recette pas cher, votre magazine livre guide est à 10,90€, c'est accessible pour le plus grand monde. C'est important en pleine rentrée étudiante, là où des jeunes sont en difficulté, là où des jeunes connaissent la précarité, d'insister sur le prix. En clair, vous pouvez manger sainement et pas cher.
Exactement, exactement. C'est pas forcément. On peut faire une recette à moins de 5€. J'ai par exemple une recette de noodles à moins de 3,50€ dans le guide. On peut s'amuser, faire de la bonne cuisine, pas forcément cher. Et surtout, voilà, avec peu de matériel, c'est aussi ça la problématique, avec peu de matériel, en peu de temps, parce que dans les messages que je recevais, c'était aussi une question de temps, voilà. Par exemple, mon fils ou moi, j'ai pas trop le temps de me faire à manger entre midi et deux, c'est compliqué. Et l'idée, c'est vraiment ça. C'est bien sûr, il y a une question de budget, mais il y a aussi une question de temps et de matériel.
Et vous, vous donnez aussi des recettes, j'ai envie de dire, pour finir les restes aussi, pour profiter de ces possibilités-là. Ouais. C'est aussi un livre écologique, Diego, à l'heure de la sobriété, une sorte de petit plaidoyer anti-gaspillage. Vous dites, avec pas grand-chose, on peut faire de belles choses.
Ben oui, c'est vrai que parfois, par exemple, au lieu de jeter un yaourt qui se périme à un ou deux jours, on peut par exemple, je montre dans le guide par exemple comment faire un superbe cheesecake. Et il y a beaucoup de recettes comme ça que j'ai faites à partir de restes, comme par exemple le fried rice ou les pommes de terre farcies, etc., avec le reste de bolognaise. Donc j'insiste vraiment sur ça, parce que je pense que c'est vraiment des problématiques, et ça nous concerne tous. C'est pas forcément que les jeunes, etc. On a tous des choses chez nous qu'on n'utilise pas, mais on peut tous en faire, enfin on peut tout le temps en faire plein de petits trucs, quoi.
Diego, il y a quelques jours, le Crous de Strasbourg a mis en place un jeu concours pour tenter de remporter des lots, dont un et deux mois de repas gratuits au restaurant de l'université. C'est un concours sur Instagram.
J'ai entendu parler.
C'est une polémique malvenue, alors qu'on connaît la précarité de ces étudiants. Ça vous a choqué, Diego?
Mais moi, j'en ai entendu parler. En vrai, je trouve ça triste que ce débat sur le fait de manger quand on est un étudiant, ce soit devenu un sujet d'actualité. Après, je veux pas du tout en faire de récupération par rapport à mon projet ou me positionner comme un super-héros ou quoi. C'est un sujet complexe et je pense que ça doit être traité par des gens dont c'est le métier, voilà. Mais voilà, je trouve ça très attristant que manger, ce soit un sujet de difficulté dans la vie de tous les jours de certains étudiants. Et j'espère que les gens dont c'est le métier vont apporter des solutions pour les jeunes. Je pense que c'est le principal.
Merci beaucoup, Diego. J'ai un dernier défi, Diego, pour vous.
Oui, vous écoute.
Si je vous donne un fromage blanc, une tomate, des restes d'un steak haché et une boîte de maïs.
Alors, une tomate, un fromage blanc, un reste de maïs, ouais, et du steak haché.
Ouais, voilà.
On va dire que sur la tomate et sur le maïs, on peut faire une bonne petite salade. Ok.
Ouais.
On peut y assaisonner un petit fromage blanc avec quelques épices, de l'huile d'olive, un petit peu de jus de citron en plus pour un peu d'acidité.
Ouais.
On est bon.
On est bon.
Et le steak haché, moi je le mélangerais pas avec le reste. Je le mettrais à côté, je le ferais poêler tout simplement avec un petit filet d'huile, un petit peu de sel, pas trop cuit et c'est simple, mais c'est très très bon. La petite sauce qui agrémente le steak haché et la petite salade de maïs tomate, un peu acide, c'est super bon.
Je vous laisse une demi-heure, Diego, pour nous envoyer une petite vidéo pour la mettre sur les réseaux sociaux de RTL, juste avant 14h, avant de se dire au revoir, pour que les gens puissent la découvrir sur Instagram, sur Twitter et surtout pour avoir ces possibilités de manger sainement et pas cher, les roulés saucisses à partager, les briques avec la boîte de thon qui traîne, les cheesy mushroom quesadillas. Je me suis régalé à chaque page. Merci Diego Larry d'avoir été l'invité de Focus Dimanche sur RTL. Bon dimanche, Diego.
Merci, au revoir.
Au revoir, Diego. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. Vous le savez désormais, Focus Dimanche, c'est l'émission des entretiens avec ceux qui font l'actualité de la semaine chaque dimanche à 13h sur RTL. En attendant, vous pouvez nous réécouter sur RTL.fr et bien sûr, ne ratez pas chaque jour Marion Calais qui décrypte pour vous l'actualité de la journée. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Marianne James. Elle est l'invitée de Bruno Guillon dans le Bon Dimanche Show.
Mohamed Bouafsi sur RTL.
Focus Dimanche.